Voral.
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 Voral. Les archives orales.
Les archives orales. Plongés à corps perdu et à gorge profonde dans les archives LGBTQIA+, on dépoussière les fossiles à base d'entretiens, de morceaux choisis, d'objets trouvés, de découvertes musicales et de lectures.
Qu'est-ce qu'une archive ? C'est tout, c'est rien, c'est n'importe quoi, c'est toi, c'est nous.
C'est nous. Le quatrième mercredi du mois, à 16h30 sur Radio Galère.
Bonjour et bienvenue dans la 8e émission de Voral, l'émission des archives Voral queer LGBT. Aujourd'hui, c'est une spéciale cruising dans Voral, alors si ce mot ne vous évoque pas grand-chose, ou rien du tout, c'est le moment de plonger avec nous dans le grand bain des récits et d'images qu'on va traverser ensemble. À travers un entretien, des archives perso, des témoignages d'inconnus, jusqu'à la mort de Pasolini, on vous propose de s'embarquer. On ne manquera pas, après cette heure assez riche, de parler des actualités marseillaises avec le festival de cinéma Transgays qui a démarré déjà hier au Vidéodrome 2 et qui continue jusqu'à la fin de la semaine, ainsi que la quinzaine stupéfiante qui s'annonce, dont on parlera plus en détail tout à l'heure. C'est parti.
Bonjour, vous êtes bien dans Voral et aujourd'hui on va commencer par un montage d'une rencontre qu'on a faite avec Laurent Lola Guessad. Et Laurent Lola, on l'a rencontré un soir au Manshaft, qui est un lieu bien connu des nuits secrètes marseillaises. Et ça a donné une rencontre radiophonique pour parler cruising et de ses folles années à Marseille dans les années 90. Laurent Lola est militante contre le sida, d'abord à ACT UP en Angleterre, puis à AIDS à Marseille. Et il est devenu universitaire et pédale itinérante en camion. On s'écoute ça tout de suite, c'est Voral.
On est au Mont Rose, on a essayé de rejoindre Laurent Lola en traversant les buissons dans les bourrasques de Mistral. Il n'y a pas grand monde. On slalome entre les figuiers de Barbarie et des touffes d'herbe, car c'est l'hiver et l'endroit est touffu.
Touffu, mais il y a très peu de cruising. A priori, on n'a croisé aucune pédale cachée dans les buissons. Pas d'emballage suspect par terre. Je suis un peu déçu.
Tout juste des petits mouchoirs par-ci par-là. On sent que la prep est arrivée, finalement.
On est perdu. Audio description, on voit des rochers blancs et il y a des arbustes. L'herbe est verte. Ah, on a retrouvé un petit chemin. Oh la mer! Et la mer est, comme on disait?
La mer est frisée, il y a beaucoup de vent.
Frisée telle des poils pubiens à l'horizon. Je crois qu'on a trouvé quelque chose.
Un petit couchage de fortune fait de quelques couvertures étendues dans le creux d'un buisson.
Et les gens ont l'air de s'être bien hydratés, car il y a des bouteilles en plastique d'eau minérale. C'est important l'hydratation quand on part en randonnée sexuelle également. Les zones passent nonchalants, l'air de rien. Ils sont venus là pour le paysage.
Et oui, parce que récemment, les sentiers de randonnée ont été retracés par la municipalité. Et du coup, ça attire un public beaucoup moins cruiseur et beaucoup plus famille hétéro venus faire des petites randos sympas proches du centre.
Je crois que Laurent s'impatiente, j'ai reçu un message. Alors, jeu de piste, il faut la trouver maintenant.
Dans l'arène, petit creux où les gens vont se baigner d'habitude, qui fait une espèce de dévalade, ça se dit pas.
Une dévalade, bah non, maintenant ça se dit pas.
Une dévalade vers l'eau, le rocher, dans lequel tu descends, tu te sens comme dans une arène finalement.
Comme dans la petite sirène également.
Un peu dans la fosse au lion aussi.
Et quasi lion.
Alors peut-être ça pourrait être caché par là. Ah non, c'est un pêcheur. Quelqu'un me racontait que il se demandait la première fois qu'il était venu ici pourquoi il y avait autant de cannes à pêche esselées. Et après il a compris, il a vu que certains pêcheurs montaient sur la colline.
Jésus-Marie-Joseph, dans quel endroit de perdition nous emmènes-tu ?
Un vrai parcours de la combattante. Quelle belle vue !
Ah oui, ça se mérite par contre.
Ah, une montée vers l'amour. Ah, c'est pas mise à l'endroit plus fastoche.
Je pense qu'on a croisé notre premier cruiser.
Ah oui, est-ce que tu peux nous décrire la scène ?
Donc on est en train de descendre et en se retournant sur un surplomb rocheux, on aperçoit une silhouette dans un anorak avec un bonnet gris, les bras croisés qui semblent regarder l'horizon, les personnes en bas, on ne sait pas trop, c'est une image énigmatique. Hello! Salut!
Rosé. Ici, on est rue Abbé de l'Épée. Et la rue Abbé de l'Épée, en tout cas le bas de la rue de l'Abbé de l'Épée, parce qu'elle est très longue, elle vient quand même de la plaine. Elle est très très longue. Et elle se termine sur un parking en bas qui est à côté d'un boulodrome, à côté duquel il y a, ça fait beaucoup d'à côté, l'ancien Square Doria. Ce Square Doria, je l'appelle Doria, mais tout le monde l'appelait Sébasto. Alors c'est intéressant parce que du coup, tu vois comme les lieux bougent. On est dans, du coup, les lieux de drague à l'époque. Je ne suis pas sûr qu'on y drague encore. J'ai essayé de faire descendre un mec d'une appli Grindr qui était à la Timone en lui disant « Viens, on se retrouve au boulodrome. » Le boulodrome est très sombre, par contre, en bas. Mais du coup, Doria, les gens appelaient ça Sébasto, de Sébastopol, de la place Sébastopol, qui, elle, est à quelques minutes de l'autre côté, parce que sur la place Sébastopol, il y avait une pissotière où ça draguait. Et quand on a rasé la pissotière, le lieu s'est déplacé. Le lieu de drague s'est déplacé sur le coin de verdure le plus proche, qui était ce fameux Square Doria. Sauf que le Square Doria, il a subi des amputations de buissons, de terrain, parce qu'ils ont installé une crèche et la crèche a absorbé une partie du terrain. On a arraché toute la végétation, on a mis cette espèce de sol en gomme, tu vois, pour pas que les enfants se blessent. Et du coup, ça a été hyper éclairé, même si je dois dire que c'est quand même un endroit où j'ai essayer de détruire des halogènes au lance-pierre. Je m'étais acheté un lance-pierre à Empereur, tu vois, le... un super lance-pierre qui se cale sur l'avant-bras comme ça, tu vois, avec un article comme ça. Et bref, ça a été ici vraiment un lieu de drague important. Et la rue Abbé de l'Épée, il y avait aussi des travailleurs du sexe, des mecs essentiellement, contre les arbres un peu plus bas. Et comme elle a une contre-allée, ça permettait de faire ce que certains appelaient vire-vire, à la fois vire et virer tout autour de cet énorme pâté où il y a la sécurité sociale et la CRAM, par le boulevard Sacchini, remonter par Chaves, remonter par la rue Georges, repartir sur la baie de l'Épée. Et donc ça tournait dans ce sens-là, en permanence, les bagnoles. Et tu pouvais soit racoler, que tu dragues ou que tu tapines, tu pouvais racoler en rue, en marchant le long du trottoir, en te postant contre les arbres ou sur les réverbères, soit te rapprocher du boulodrome où il faisait quand même beaucoup plus sombre, et surtout aller dans les jardins du Square Doria qui à l'époque n'était pas si éclairé et qui était très boisé, quoi. Et il y avait du monde en fait, hein, et l'éclairage ou les lagages, ben, dans un premier temps, c'est marrant, il y avait les pompiers à côté de nous. Le pompier du petit matin, bien entendu. Oui, parce qu'il y avait ces... Pour le coup, ici, c'était vraiment un lieu de grande mixité entre hommes, mais de grande mixité, dans la mesure où, effectivement, il pouvait y avoir le pompier de la caserne à côté, tout à fait, ou le boulanger qui commençait tôt le matin, ou le gardien du boulodrome, je peux le dire, il était tellement âgé qu'il est sûrement plus de cette terre aujourd'hui, ou des gardiens, même les vigiles, en fait, hein, parce que certains racontent que les vigiles faisaient rentrer aussi les gens. Tu vois, il y a aussi ces légendes, en fait, tu vois, où, où l'interlope, c'est justement cette entrelope, où du coup, il y en a un qui a les clés, il y en a un qui, voilà, il en est, mais il n'en est pas, quoi, cette espèce de pas vu, pas pris. Pour le coup, il y avait aussi tous les mecs mariés, les mecs hétéros, les mecs pédés qui se déguisaient en hétéros parce qu'ils cherchaient des mecs qui ressemblaient à des hétéros, tu vois. J'ai parlé de ça, de l'hétéro comme désir d'ailleurs dans le monde de la drague. Moi, je me souviens d'un copain qui racontait que quand il allait draguer, il se déguisait en mec. Je marche comme ça, je fais le kéké marseillais parce qu'en fait, j'aime bien rencontrer un kéké marseillais.
Alors là, petite audio description, Laurent Lola vient de déambuler les jambes arquées en bougeant les bras de gauche à droite.
Vous êtes très agité.
Yeah.
moi, l'arrivée à Toulouse et le début de mes études en sociologie, ça a été tout de suite d'étudier la ville comme un laboratoire, et en particulier un laboratoire des altérités, quoi. Des coprésences, moi, ce qui m'a toujours plu, c'est justement toutes les approches qu'on appelle d'ethnographie immersive, c'est-à-dire du coup les points de vue situés, parler de l'intérieur ou du moins pouvoir être dans des milieux dont on ne parle pas et les révéler. Donc en fait le choix des lieux de drague il s'est imposé assez vite, à la fois parce que pour le coup, moi je venais de la lutte contre le sida, comme tu le dis, de l'action sociale finalement, on peut dire ça, et de la santé publique. Et pour moi, ça a été vraiment une entreprise de déconstruction, de démolition de tout ce que j'avais pu penser en termes de catégories aussi. Et en particulier de catégories épidémiologiques, tu vois. Homosexuel, bisexuel, hétérosexuel. Je voulais tordre le cou à ça, tout de suite, le plus vite possible. Et le terrain des lieux de drague, c'était un terrain idéal justement pour parler de ces mixités entre homo, entre hétéro, de ces passages, de ces transitions entre univers de normes. Je ne faisais pas de différence pour moi entre un mec pédé marié qui débarquait discretos pendant que son mec était en week-end ailleurs et un mec qui était marié avec une meuf en réalité. Ils étaient dans des démarches qui étaient analogues. Moi, j'avais envie effectivement de passer par les lieux, vraiment, et oublier les identités, au moins provisoirement en tout cas. Peut-être pour les réintroduire plus tard, mais ce que je proposais, c'est de mener une enquête sur les territoires en fait et sur leur histoire. Comment ils étaient apparus, comment ils s'étaient déplacés, quelle était la relation entre ces lieux interlopes et les politiques de la ville, comment il y avait une morale riveraine qui du coup avait tendance à faire en sorte que ces lieux disparaissent, mais ces lieux revenaient tout le temps, à côté, sur les bords, quand on éclairait un endroit, ou qu'on élaguait et qu'on coupait les buissons ou qu'on fermait un parc, ben, c'était les portes cochères. Ici dans le quartier, j'avais des codes même de certaines résidences par exemple qui pouvaient circuler sous le manteau et les gens savaient que du coup si la personne se garait, tu pouvais aller baiser dans telle porte cochère à tel endroit. Il y a toujours eu des manières finalement de réinvestir les lieux et moi ça me fascinait de travailler là-dessus. J'avais proposé un travail sur ce que j'avais appelé les formes notoires de sexualité secrète. Des sexualités qui étaient secrètes, mais en réalité tout le monde savait qu'elles existaient. Les premiers temps où j'essayais d'expliquer ce que je voulais dire, je prenais l'exemple de la masturbation en disant « Vous voyez, tout le monde sait que la masturbation existe et que tout le monde se masturbe, mais en réalité, je ne peux pas dire « je me masturbe » parce qu'en réalité, l'expérience même de la masturbation implique de ma part une organisation à la fois spatiale et temporelle, extrêmement ténue pour que ça n'ait pas de conséquences sur le reste de mon existence et que je ne sois pas surpris. » Par ma mère ou par... Voilà, j'aménage un espèce d'espace où je vais pouvoir disposer de mon propre corps sans que ça ait de conséquences morales sur moi, en fait. Et je prenais ce paradigme-là pour parler aussi